Oui.
Merci, merci, Bernard.
Merci à vous d'avoir accepté de faire
Oui.
ça.
Eh
Voilà.
bien, merci, merci à vous tous d'être présents et toutes. Avant de me lancer, je voudrais vous dire que c'est évidemment beaucoup de plaisir et un honneur, un peu de trac aussi, puisque c'est moi ma toute première conférence sur un sujet comme celui-ci. Je disais à l'instant à Frédéric que je suis un chrétien débutant. Et il paraît que Husserl l'a dit, il faut être un éternel débutant. Donc tout va bien.
Moi aussi.
Et d'autant plus heureux d'intervenir à deux voix avec Thierry
qui est débutant
qui est
aussi,
débutant aussi, qui vient de se lancer. Et qui est mon parrain, et voilà, c'est d'autant plus touchant. Bah oui, tout ça se rejoint. C'est parti.
Ah oui, moi je suis très honoré du fait que Clément m'ait demandé de participer à cet exposé parce que il m'a fait découvrir, approfondir en tout cas les connaissances sur ce saint Luc de Crimée, et ça vraiment j'ai eu un immense plaisir à le faire. Après, je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous en dire, mais c'est sûr que en ce qui me concerne, ça m'a appris beaucoup. Ça m'a appris beaucoup.
Alors, permettez-moi de vous dire quelque chose d'abord. Il y a des vies qui se laissent raconter tranquillement, chapitre par chapitre, sans qu'on ressente le besoin de se lever de sa chaise. Et puis, il y a des vies comme celle-là. Des vies où, au bout de 10 minutes, vous vous demandez si quelqu'un a vraiment vécu tout cela ou si quelqu'un a rêvé. Alors, voici l'homme dont nous allons parler, Valentin Félixovitch Voïno-Yassenetsky. Réussi à le passer. Né en 1877 à Kertch, en Crimée, Staline est né.
Alors, Staline, il est né en 1878 et il est mort en 1953. Et donc Saint-Luc, il se tape Staline d'un bout à
Voilà,
l'autre, c'est-à-dire
c'est pour ça.
vraiment, ils sont nés à un an d'intervalle.
C'est ça.
Et moi, ça me trouble parce que je me dis que ces deux petits-enfants comme ça qui naissent et tout, il y en a un qui va devenir un monstre, qui va avoir des millions de morts sur la conscience, et un autre qui va devenir un symptôme qui essaie de soigner le plus possible de gens.
Qui a reçu le prix
C'est
Staline.
troublant.
Et qui a reçu le prix Staline.
Oui,
En
il a
plus,
reçu le prix Staline.
l'histoire a de nombreuses ironies. Saint-Luc est mort en 1961 à Simferopol, presque aveugle, dans la même Crimée. Et donc entre les deux, chirurgien de génie, évêque orthodoxe, trois fois déporté en Sibérie, lauréat du prix Staline et canonisé saint. Et donc, je vous jure que j'invente rien. Et je vais vous demander de tenir deux choses dans la tête en même temps pendant toute cette conférence. La première, c'est un homme qui opère. Et la deuxième, c'est que c'est un homme qui prie. Et pour lui, c'est là que tout commence. Ce ne sont pas deux choses différentes. Alors, l'enfant, le peintre, le médecin. Donc, on est à Kertch en 1877. On est dans la Russie des tsars, une Russie immense, pauvre, pauvre aux trois quarts, et puis traversée d'une aspiration religieuse, d'une misère sociale qui vont bientôt exploser ensemble. Le père de Valentin est pharmacien, la famille est cultivée, catholique, d'origine polonaise, le papa. Et donc le gamin grandit dans cet entre deux cultures qui en Russie n'est jamais anodin.
C'est sa maman est orthodoxe.
Oui. Et ce qui frappe d'abord chez lui, c'est ce que lui-même appelle en fait son profond moralisme, en écrivant Le voyage à travers la souffrance, qui sont ses mémoires, mais ses mémoires ne couvrent pas toute sa vie. Elle s'arrête, je crois,
en
en 45,
46, hein,
46,
46.
voilà. Il dit, voilà, j'ai été toujours caractérisé par un profond moralisme, c'est-à-dire le sens du juste et de l'injuste. Il a cette chose rare déjà. À 10 ans, à 12 ans, une espèce de boussole intérieure qui s'affole quand quelque chose est injuste et qui le pousse à agir, non pas seulement à parler, il parle aussi, hein, c'est un très tôt un bon orateur, il fait la leçon à ses petits camarades qui se disputent, hein, il a enfant un camarade juif qui se fait bousculer par un camarade polonais, je crois, oui. Et il leur fait, il les sépare, il fait la paix, et il fait une première homélie, ou en tout cas voilà, un exposé d'enfant, voilà. Donc il ne fait pas seulement parler, il agit. Il intervient physiquement. Dans la Russie de la fin du 19e siècle, intervenir auprès de ce camarade juif avec l'antisémitisme un peu ambiant, il y a des pogroms qui commencent et tout ça, ben, c'est pas un geste qui est banal, hein, c'est un geste qui n'est pas banal du tout. On peut dire qu'il a peut-être pas encore de théologie, ce petit Valentin, mais il a déjà une éthique. Alors il rêve de peinture. Voilà, sa vocation première, c'est la peinture. Il étudie à Kiev, il passe quelques mois à Munich, il dessine très bien, et ses professeurs le voient, et puis un matin, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans sa tête ce matin-là, il s'inscrit à la faculté de médecine. Et plus tard, il explique, et je vais le citer, « De courtes hésitations se sont terminées par la décision que je n'avais pas le droit de m'occuper de ce qui me plaît, mais que j'étais obligé de m'occuper de ce qui était utile aux gens qui souffrent. » Et regardez ce que ça dit cette phrase. C'est pas, j'ai été appelé, j'ai eu une vision ou j'ai entendu une voix. C'est je n'avais pas le droit. Autrement dit, la souffrance des autres est une exigence morale qui s'impose à moi. Je peux pas faire comme si elle n'existait pas. Et là, il faut dire un mot, Thierry, du peintre et du futur anatomiste aussi.
Oui, parce que si vous voulez, ce qui est quand même frappant dans son cursus de médecine, c'est que au départ, il est frappé par la misère des moudjiks, et des paysans donc russes, et il se dit mais il faut absolument faire quelque chose pour eux. D'ailleurs, au départ, il contrarie beaucoup sa mère parce qu'après avoir dit qu'il allait faire la médecine, en fait, il veut carrément aller à la campagne, aider les paysans et puis se consacrer complètement à la vie paysanne et tout. Et puis il y a quelqu'un, un des profs ou tout ça, qui lui dit mais non, mais c'est bien de faire ça, mais tu devrais faire médecine. Et donc il accepte. Et en fait, au départ, il n'avait pas de place en médecine. Donc le recteur de l'académie lui dit ben écoute, fais une année de biologie ou de sciences nat, et puis après tu feras médecine. Et lui, ça le gonfle vraiment de faire les sciences nat. Donc il fait une année de philo, droit, théologie, donc que des sciences humaines. Et puis il va quand même à Munich voir pour approfondir les questions de dessin. Il revient. Et il fait une année encore de dessin, parce qu'il est quand même un passionné de dessin. Donc il ne se met pas en médecine du tout, tout de suite. Et alors là, après, il va quand même en médecine. Il se force à faire des sciences qu'il appelle donc la biologie, en fait, tout ce qui est un petit peu le gonflé. Et il est, comme il est très bon, visiblement, il réussit très bien. Il a de très bonnes notes. Mais surtout, il réussit parce que il y a beaucoup, vous savez, en médecine, autrefois, moins on avait une connaissance médicale, plus on approfondissait l'anatomie. Parce que c'était, eh ben, on pouvait étudier l'anatomie à fond, et la physiologie et la physiopathologie, on la connaissait mal, et donc c'était pas des matières qui avaient encore pris beaucoup d'importance. Donc tout était donné beaucoup d'importance et on vous apprenait l'anatomie, mais de fond en comble, et c'était, on en foutait plein la tête. Et lui, son centre du dessin lui permet de faire des planches anatomiques absolument merveilleuses. Et surtout, à l'époque, on allait en salle de dissection. Et donc, on disséquait, on apprenait tous les organes et tout ça en étant en salle de dissection. Je vous avoue que je ne sais pas si Frédéric était comme moi, mais moi je suis allé en dissection, mais on en faisait assez peu, c'était pas vraiment, on y faisait passer des heures, tandis que là il est passé des heures. Et du coup, il est devenu très 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 bon en anatomie, et Il était tellement bon que ses profs lui ont dit, et tout autour de lui, mais tu peux devenir vraiment un universitaire, un prof d'anatomie, et ainsi de suite. Et il a dit, non, moi, messieurs, je veux être médecin de campagne pour aller soigner les moujiks, et je c'est pas du tout une carrière médicale, disons de faculté et de prof et tout ça à laquelle je me sens destiné. Donc
c'est ça. Et donc à la fin de ses études, quand il dit moi finalement je vais pas poursuivre à l'université, ses condisciples ne comprennent pas, ils sont complètement effarés. Le meilleur d'entre eux, celui qu'on voulait garder à l'université, annonce qu'il sera médecin de campagne. C'est la spécialité la moins glamour, déjà à l'époque, la moins payée, la plus éreintante qui soit. Et il dira plus tard, dans son autobiographie, « J'étais blessé de ce qu'on ne me comprit pas du tout, car j'étudiais la médecine dans le but exclusif d'être médecin de campagne pour les moujiks, d'aider les pauvres gens. » Voilà, encore une fois, il n'est pas fâché, il est blessé. Il était blessé. C'est un homme qui souffre de n'être pas compris à ce moment-là, mais qui ne se démonte pas pour autant. Et je voudrais qu'on dise un mot ici, peut-être tiré du contexte dans lequel s'inscrit sa thèse de médecine en 1916, parce que la révolution que ça représente n'est pas forcément évidente pour quelqu'un qui n'a connu, j'allais dire, l'anesthésie que comme une évidence de la salle d'opération.
C'est à peu près tout notre cas. Ce qui va lui arriver, c'est que à peine sorti des études de médecine et très 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 peu formé, il y a la guerre entre la Russie et le Japon, et donc on l'envoie à Chita, c'est-à-dire c'est près du lac Baïkal, vraiment. Pour être carrément médecin, mais dans donc pour soigner les blessés de cette guerre. Et en fait, on lui demande en fait de faire de la chirurgie. Et lui, il a étudié à fond un bouquin d'un chirurgien français qui s'appelle Lejar, et qui était un traité de chirurgie de la chirurgie d'urgence. Et il dit, sachant qu'il partait là-bas, il a étudié à fond ce bouquin, et à partir du bouquin, il se met à faire de la chirurgie, alors qu'il était destiné à la médecine générale, et il devient un excellent chirurgien, parce que si vous voulez, sur le terrain, comme ça se produisait à l'époque, notre cher père nous disait qu'au début de son installation, il y a beaucoup d'interventions qu'il n'avait jamais faites et qu'il faisait pour la première fois parce que il n'était pas assez formé. Et là, je peux vous dire que tel que décrit Luc de Crimée sa formation, c'est qu'il avait absolument disséqué tout ce qu'on veut, mais que des cadavres. Et donc là, il passe au corps vivant et à ses blessés, et il devient incontestablement, il réalise qu'il a un don indéniable pour la chirurgie. Simplement, lors de son premier, une fois qu'il va terminer cette chirurgie-là de guerre, il va vouloir s'installer tout de suite. Il va se marier quand il était sur cet hôpital de campagne de guerre. Mais si vous voulez, très rapidement, il va réaliser que l'anesthésie est extrêmement dangereuse et que elle est redoutable parce que, si vous voulez, il y a l'éther, point, et si vous endormez à l'éther, si par exemple le malade vomit, ça tourne à la catastrophe, c'est l'inondation pulmonaire, et paf, c'est terminé, c'est le décès assuré. Donc, si vous voulez, il est très rapidement sensibilisé à l'importance de l'anesthésie et du danger de l'anesthésie. Et donc, il tombe sur un bouquin d'un Autrichien qui s'appelle Braun. Et ce Braun décrit des anesthésies locales et loco-régionales avec la novocaïne. Et donc, lui, comme il est très très bon en anatomie, il se dit, mais dans le fond, c'est une solution pour soigner, notamment dès qu'on s'occupe d'un membre, que ce soit les membres supérieurs ou les membres inférieurs, je fais une anesthésie des nerfs qui énerve ce membre, et il devient Il est excellent dans le domaine. Il écrit un traité. Il fait sa thèse là-dessus. Et en 1916, il a aussi des reconnaissances tout à fait importantes sur ces techniques-là, parce que en Russie, on ne connaissait pas du tout. On ne connaissait pas du tout. Et je vous fais juste une petite historique de l'anesthésie dans le monde, parce que c'est important de savoir ça. C'est que je pense que le premier chirurgien et le premier anesthésiste au monde, ça a été Dieu lui-même. Parce que si vous lisez la Bible, dans la Genèse, quand Dieu enlève la côte d'Adam pour faire Ève, et Dieu, il endort. Il endort Adam, il a cette délicatesse d'endormir. Mais je peux vous assurer qu'il a fallu arriver dans le monde chirurgical en 1846,
à Boston, hein,
pour que la première fois à Boston, il y a un dentiste qui avait vu que lui pouvait arracher les dents, donner un petit coup d'éther, qui propose à un chirurgien de Boston qui s'appelait Warren, et il lui propose d'essayer de faire une opération sous anesthésie générale, avec l'éther. Et ce qui est absolument incroyable, et ce qu'on ignore tous, c'est que avant ça, il y a des descriptions dans ce livre d'histoire de l'anesthésie écrit par un chirurgien. Les séances des opérations, c'était des séances de torture. C'est-à-dire que c'était horrible. Les gens hurlaient de douleur quand le chirurgien... Et la seule arme qu'avait le chirurgien pour que ça... C'était la vitesse. Ils opéraient à des vitesses folles. Par exemple, si vous lisez la vie de Dominique Larrey, qui était le chirurgien de la garde Napoléon, ce type-là, on disait qu'il amputait une jambe ou un bras en moins d'une minute. C'était une vitesse absolument effrayante, et parce qu'il jouait sur la vitesse pour que les gens ne hurlent le moins longtemps possible. Et là-dedans, vous avez des descriptions de ce qui se passait effectivement à Boston. Il y a trois interventions décrites par ce chirurgien Warren avant qu'on ait la moindre anesthésie. C'est effectivement quelque chose d'épouvantable et incroyable.
Thierry, je me rappelle que quand on a préparé cette conférence, tu m'as cité ce mot d'un grand chirurgien français qui s'appelle Velpo.
Ah oui, Velpo. Velpo, il disait que, si vous voulez, contrairement à ce qui s'est passé pour Saint-Luc, les chirurgiens acceptaient ça comme une fatalité. Ouais. C'est-à-dire qu'ils disaient, mais on ne pourra jamais dissocier l'action d'un scalpel avec la douleur. C'est impossible. On n'y arrivera jamais.
Exact.
Donc il faut accepter, il faut se boucher les oreilles, mais il faut être impassible devant la douleur. Et donc, si vous voulez, souvent on a reproché aux chirurgiens d'avoir une grande résistance à la douleur des autres, n'est-ce pas? et ça existe un petit peu. Vous savez, dans ma propre carrière, je me suis battu avec certains. Je me souviens encore avec un patron qui effectivement, notamment des pansements au lit du malade, et moi je lui ai proposé que je fasse un petit coup d'anesthésie, et donc, si vous voulez, parce que c'était normal, entre guillemets, de souffrir, quoi. Et donc voilà. Et donc, Luc de Crimée a d'emblée été sensibilisé à ça. Il faisait pas du tout partie des chirurgiens qui avait une grande résistance à l'odeur des autres. Et il avait deux notions, c'est qu'il fallait que, un, les gens n'aient pas mal, deux, que ce soit pas dangereux. Et d'où sa thèse très importante et tout à fait remarquable sur l'anesthésie loco-régionale. Je vous signale que les Anglais, pour une fois, étaient bien meilleurs que nous. Les Anglais ont considéré en 1800, un Anglais qui s'appelait Snow, en 1880, a dit l'anesthésie, c'est trop dangereux, il faut que ce soit la faculté qui forme des anesthésistes et que ce soit des médecins internistes. Donc, si vous voulez, l'Angleterre a eu, dès les 1880, des médecins anesthésistes. En France, il faut arriver en 1951 pour qu'on ait la première charte d'anesthésie. Et il faut arriver en 1884 pour que la formation d'un anesthésiste et d'un chirurgien soit aussi complète, c'est-à-dire 13 à 15 années d'après le bac. Donc, si vous voulez, et Luc de Crimée était soumis à ce, comme les Russes, comme les Français, comme les Européens, avaient effectivement, le chirurgien avait la totale responsabilité de l'anesthésie parce que et c'était une infirmière qui faisait le mieux possible, mais qui n'était pas formée à l'anesthésie plus que ça, sinon que sur le tas, et sous le regard du chirurgien qui disait « rajoutez un petit peu d'éther, ainsi de suite », ou « non, mais pas trop, parce que le malade est en train de défaillir », et ainsi de suite, et c'est comme ça que se passaient les opérations. Donc, si vous voulez, c'est sûr que Luc de Crimée a été dans moi, d'après ce que j'ai lu de lui, il était dans la catégorie effectivement des chirurgiens qui n'avaient absolument pas d'assistance d'un médecin pour l'anesthésie et uniquement certainement des infirmières ou des aides qui étaient bien, mais qui effectivement il n'y avait pas de spécialité à part entière sur l'anesthésie. Voilà.
C'est ça. Donc on passe d'une époque où on pouvait dire avec Velpo l'idée d'opérer sans douleur est une chimère qu'il n'est plus permis de poursuivre. C'était pas la peine de faire de la recherche et à son intuition qu'il va développer dans sa thèse. Bah oui, on peut bloquer la douleur sans endormir tout le patient et avec moins de risques. À une époque où
pas tout le patient, on endort éventuellement très bien les membres. Ouais. Et le corps jusqu'ici, mais on peut pas
on endort pas,
chirurgies thoraciques sous anesthésie locorégionale.
Ouais. Et à une époque où 30 à 50% des patients mouraient de l'anesthésie à l'éther,
c'était là, le chirurgien qui écrit ça. Il dit qu'en 1930, lorsqu'il s'est mis à l'anesthésie locorégionale, la mortalité sur les opérations un petit peu lourdes de l'époque, qui n'est pas si lourde que ça, et il avait une mortalité qui passait de 30% à 5%.
C'est ça.
Mais 30% de mortalité quand même. Donc c'est
quand même énorme. Et donc, c'est donc une thèse qui fait un peu sensation. Et alors, non seulement elle est techniquement intéressante, mais il y a quelque chose qui se dégage déjà spirituellement de ça, certainement, parce que, alors j'ai pas lu la thèse, hein, je vous avoue, mais le rapporteur de thèse a dit, c'est le chant d'un oiseau, qui ne peut pas ne pas chanter. Voilà, c'est joli, hein, en soutenance de thèse. Et alors vient Anna. Donc pendant la guerre russo-japonaise, Thierry, tu en as parlé, 1904-1905, notre chirurgien militaire, Voïno Yasenetsky, rencontre en Extrême-Orient une infirmière que ses collègues appellent spontanément la Sainte Sœur. Alors ils se marient et ils ont 4 enfants. Et alors l'autobiographie de Luc contient sur sa femme un passage très franc, presque comique, avec une tristesse aussi. C'est quelqu'un qui a fait vœu de chasteté et elle l'épouse quand même. Et alors Luc écrit pour avoir enfreint ce vœu, Dieu l'a puni d'une jalousie pathologique insupportable. Voilà. Alors ce qui est touchant, c'est qu'évidemment derrière cette phrase qui peut sembler un peu dure, il y a un homme qui a aimé cette femme, une femme d'une très grande générosité, qui accueille chez elle des patients sans logis, qui va mourir à 38 ans de la tuberculose. On est en 1919. Faut rappeler que les premiers antibiotiques antituberculeux n'apparaîtront que dans les années 50. Voilà. Et contre cette maladie-là, la médecine de l'époque ne pouvait presque rien. On pouvait soulager un peu, mais on ne pouvait pas guérir.
En fait, la pauvre Anna, elle a, en fait, et sa sœur est venue lui rendre visite, et la sœur en question venait de perdre sa fille, qui devait avoir une dizaine d'années, d'une tuberculose pulmonaire catastrophique. Et donc, elle est arrivée avec une couverture qui avait servi à cette pauvre gosse. Et Luc de Crimée lui dit, écoute, ma pauvre, tu nous as apporté la mort. Et ça n'a pas raté dans les jours, dans les semaines qui ont suivi le passage de cette sœur. La pauvre Anna a commencé une tuberculose pulmonaire Et cette tuberculose pulmonaire l'a fait mourir à 38 ans.
38 ans.
Donc dans un tableau effectivement catastrophique de l'époque. C'est-à-dire que à l'époque, on n'avait aucun moyen, sauf on essayait, vous savez, les fameux sanatoriums, c'est-à-dire où tout le monde a connu ça dans nos générations. C'est-à-dire qu'on vous envoyait prendre le bon air dans des lieux où effectivement l'air n'était pas pollué, plus sec. Et c'est d'ailleurs pour ça que lui, quand il voit que sa femme a une tuberculose pulmonaire, il postule pour un poste qui est à Tchaken, dans le sud de la Russie, très au sud, et il a le poste parce que il avait les compétences, et c'est là qu'elle meurt au bout de 13 ans de mariage.
C'est ça. Alors on est peu de temps après, on est en 1921. Donc la Russie est en pleine guerre civile. On a une famine qui tue 5 millions de personnes, et les affiches sur les murs des immeubles proclament que le propriétaire foncier et le général sont les pires ennemis du pouvoir soviétique. Et Valentin Félixovitch Voïno-Yassenetsky se présente ce matin-là à l'hôpital en soutane avec une croix de prêtre sur la poitrine parce qu'il vient d'être ordonné.
J'aimerais juste ajouter quelque chose, c'est que la mort de sa femme est quelque chose de tout à fait important parce que il va falloir que ses 4 enfants et une mère. Et donc là, il est en train de lire le psautier la nuit où sa femme décède, et il lit le psautier et il tombe sur le psaume 118. C'est le
112.
Où est-ce que j'ai mis mon truc? C'est 113. Ou 112 ou 113 suivant les psautiers. Et sur ce psautier, il lit: lui qui donne une maison à la femme stérile, qui en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Et là, pour lui, c'est un signe du ciel. Il attend difficilement 7 heures du matin pour aller voir son infirmière de bloc opératoire avec qui il a une relation purement professionnelle et pas du tout autre. Et il va chez elle, il frappe et il lui dit: voilà, je suis navré, je vais vous dire quelque chose qui vient d'arriver, c'est que ma femme vient de décéder. Et là, j'ai lu ça. Est-ce que vous êtes croyante? Est-ce que vous croyez en Dieu? Elle dit oui. Et il lui dit: écoutez, je vais vous dire quelque chose qui vous paraît être certainement énorme, mais je sais que vous êtes veuve, que vous n'avez pas d'enfant, et voilà ce que j'ai, le verset du psaume que je viens de lire, que j'ai lu pendant la nuit. Et donc là, ça veut dire pour moi qu'il faut que je vous demande de prendre la relève de Anna, d'être la mère de ses enfants, mais je vais vous donner une chambre, j'ai une chambre pour vous, on fera chambre à part, vous serez la mère de mes enfants, et moi, je grosso modo, on va pas se marier. Donc, c'est comme ça
que cette
femme admirable, qui s'appelle Sofia, je sais plus comment,
Sergeyevna,
elle accepte, elle lui dit simplement qu'elle aime beaucoup ses enfants, qu'elle les connaît un peu, mais que l'aîné, ça va pas être facile parce qu'il a un caractère bien trempé. Et en fait, grâce à cette femme, je dirais, ces 4 enfants vont être élevés parce que, inutile de vous dire que quand vous voyez la vie de Saint-Luc, je pense qu'il a pas eu beaucoup de temps à consacrer à ses enfants, puisque entre les périodes d'exil et le boulot qu'il a batté, et son ministère d'évêque, je sais pas comment il pouvait avoir un temps à consacrer à ses enfants. Mais malgré ce, le résultat, c'est qu'il a eu sur les 4 enfants, il y en a 3 qui ont été médecins, deux garçons et une fille médecins, et le troisième et le quatrième biologiste. Donc ils ont quand même, et ça veut dire que cette femme admirable les a parfaitement menés à bon port, je dirais.
Absolument. Alors on est au moment où il reçoit l'ordination. Il y a une ancienne infirmière qui travaillait avec lui qui dit, et c'est une des belles phrases de cette histoire, c'était le fait soit d'un fou, soit d'un homme infiniment courageux, et Voinoï Yasenetsky n'était pas fou. Étudiants en médecine, eux, ils sont complètement désemparés. Ce patron, ce chirurgien qu'ils admiraient, qu'ils venaient écouter en cours, et ben voilà qu'ils se présentent en vêtements de prêtre. Voilà qu'il prie avant d'opérer, voilà qu'il parle de Dieu, et il leur répond, parmi les réponses qu'il fait, c'est une réponse de saint Paul, hein, c'est pas seulement une réponse de circonstance. Il va chercher la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 17, « Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncé l'Évangile », et il s'appuie là-dessus auprès de ses étudiants.
En fait, c'est vrai qu'il a pourquoi l'évêque lui a demandé de devenir prêtre, c'est parce que à un moment donné, il a quand même le temps d'aller notamment à des catéchèses, à des enseignements bibliques à l'église. Et il est remarqué parce qu'il fait des interventions lorsqu'il y a des catéchèses et des réflexions bibliques. Et donc, l'évêque est intrigué par la qualité de sa manière dont il s'exprime et tout ça, et de ses connaissances. Et donc, à un moment donné, l'évêque lui dit « Écoute, je pense qu'il faudrait que tu deviennes prêtre. » Et là, il dit « Ouais, j'accepte. » Et en fait, si vous voulez, il se remémore quelque chose qu'il avait eu en lisant l'Évangile quand il était étudiant. Et il avait été très frappé par cette passage de l'Évangile où le Christ dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans mon champ. » Et dans son champ. Et donc, ça lui était revenu, il s'est dit « Mais c'est vraiment là que j'ai senti que mon premier appel, alors qu'il n'avait jamais songé à la prêtrise, et donc il se remémore ce passage de l'Évangile à ce moment-là. »
Absolument. Alors on va comprendre que ce chirurgien qui à la fois qui enseigne l'anatomie et puis le prêtre qui prie au-dessus du malade sont pas deux personnes, c'est une seule personne avec une seule conviction, la vie humaine est sacrée. Et il faut parler un petit peu du contexte d'Église à ce moment-là. Alors, je vais vous parler un petit peu de ça. C'est compliqué sous le régime soviétique, parce que l'Église est attaquée de l'intérieur par deux schismes, sous la forme de deux schismes. Le régime persécute, mais aussi divise. Premier schisme, c'est ce qui s'est appelé l'Église vivante. On a dit aussi le rénovationnisme. Alors, c'est un schisme qu'on pourrait dire de gauche, fabriqué de toutes pièces par la GPU. Et donc, en mai 1922, le patriarche Tikhon est emprisonné et un groupe de clercs pro-communistes s'autoproclame direction ecclésiastique provisoire. Et le programme, c'est réconcilier l'orthodoxie et le marxisme, et autoriser les évêques à se marier, réformer la liturgie et enseigner que le Christ était au fond le premier socialiste. Et donc ils obtiennent la reconnaissance légale du régime, ils occupent des cathédrales, l'État soutient cet ersatz d'église parce qu'il a besoin d'une vitrine religieuse qui lui obéit. Deuxième schisme, le schisme dit grégorien, alors ça n'a rien à voir avec la réforme grégorienne, mais on l'appelle le schisme grégorien du nom de l'évêque Grégoire Yatskovski, et celui-là est un peu plus subtil. C'est un schisme qu'on pourrait dire de droite, apparu à partir de 1925-26. Là, il ne s'agit pas de rallier l'Église au communisme, mais d'exploiter les arrestations successives des dirigeants canoniques pour installer une administration parallèle. Et le régime va soutenir ça discrètement. Toujours le même principe, c'est diviser pour mieux régner. Et Luc refuse les deux. Ce qui va lui valoir une partie de ses ennuis. Sa résistance n'est pas, je dirais, pas de nature uniquement politique au sens moderne du terme. Elle est canonique et spirituelle, ce qui en 1923 revient au même. Alors on vient l'arrêter parce qu'il rentre pas, il a pas fait allégeance. Donc l'arrestation est devant le commissaire du peuple, la question rituelle, nom et profession. Et donc il y répond, je suis Luc, je suis aussi chirurgien et je crois en Dieu. Alors c'est pas voilà. Chirurgien, croyant, dans cet ordre-là, dans n'importe quel ordre, pour lui c'est pareil en fait, c'est ce qu'il est. Et je trouve qu'il y a dans cette scène quelque chose qui ressemble à ce que la tradition appelle la, en grec la parésia, la franchise courageuse. La liberté de parole, c'est pas de l'arrogance, on est du côté d'une vérité intérieure assumée, assurée. Celui qui n'a pas grand-chose à perdre parle librement, et Luc, en ce sens-là, c'est un homme libre. Alors, j'ai pas dit qu'entre-temps, il était aussi devenu évêque.
Eh oui, c'est ça. Très rapidement, il devient évêque. Pourquoi ? Parce que...
Deux ans après son ordination.
L'évêque du lieu a fui, parce que, effectivement, vous savez que les répressions étaient terribles, et donc, si justement, vous n'étiez pas dans l'église vivante du pouvoir ou l'église grégorienne du pouvoir, vous étiez dangereusement donc menacé. Alors vous savez, c'était très simple là, à l'époque. Soit, premièrement, vous allez en prison. Deux, vous étiez interrogé, torturé. Okay. Ensuite, vous partiez soit au goulag, et là, vous preniez 20 ans de goulag ou plus, et vous n'en sortiez pas vivant. Soit on vous tuait tout de suite, vous étiez fusillé, et soit vous étiez en relégation. Et Saint-Luc devient évêque rapidement, clandestinement, ouais. Parce que l'évêque du lieu déjà s'est barré et voulait personne. Aller, il n'a pas pu y aller à Valheim, le monastère qui est maintenant qui est en Finlande. Il semble qu'il n'ait pas pu y aller. C'est ça. Et donc, grosso modo, n'ayant plus d'évêque, rapidement on a ordonné deux. Lui en a ordonné un, et puis il a fait ordonner clandestinement Saint-Luc, mm-hmm. qui est devenu Saint-Luc à ce moment-là, qui est devenu Luc, assez rapidement, deux ans après sa prêtrise. Et donc, à ce moment-là, il est très, très rapidement envoyé, d'abord, effectivement, à la GPU, interrogé, mis en prison et ainsi de suite, et après en relégation. Et la relégation, c'était on vous envoyait, et je crois que le père Arsène, ça a été ça aussi à des moments, c'est-à-dire c'est pas le goulag, mais c'est on vous envoie le plus loin possible de Moscou, de tout ce que vous voulez, pour, et Dieu sait si la Russie est grande et on peut vous envoyer loin. Donc, il les envoyait comme ça. Donc, et la première fois, c'est près du cercle polaire, dans un petit bled minuscule et tout. Et donc, ce cheminement, il n'y a pas, si vous voulez, chaque fois, ce qui est assez curieux, c'est que il est accompagné, soit il est malmené en prison de nouveau, et puis après on le relâche et on lui dit vous allez aller un peu plus loin, ainsi de suite. Et là, au fur et à mesure, je dirais que sa fonction de à la fois d'évêque et de chirurgien peut être exercée parce que sur son chemin, il rencontre à la fois des gens qui ont besoin d'être soignés et puis des gens qui lui demandent effectivement la bénédiction et tout ça parce qu'il ne faut pas croire que dans le fin fond de la Russie, tout le monde était tout de suite devenu athée et communiste. C'est pas vrai. Il y avait des braves gens qui restaient fondamentalement attachés à leur foi.
En prison, il va croiser tous les détenus de droit commun. Donc, il y y a des voleurs, il y a des bandits, il y a des rôdeurs de nuit, que sais-je, tous ceux que la société range dans la catégorie des irrécupérables, et ce sont eux qui, les premiers qui viennent vers lui, et il l'appelle en russe Batyushka, le petit père. Petit père, c'est le diminutif affectueux que le peuple russe donne aux prêtres qu'il aime, et c'est ce détail, je trouve, voilà, ce seul petit mot dit quelque chose sur la nature de sainteté, qui serait plus difficile à formuler finalement, d'ailleurs de manière théologique, tout est là finalement. Il y a quelque chose qui irradie de lui et qui naturellement attire. Alors il y a eu des moments de doute quand même, parce que c'est sympa le goulag, mais c'est pas voilà. Et donc il ne s'en cache pas. Il y a eu des moments où les longues nuits d'interrogatoire, l'isolement, le froid de Sibérie, ça finissait par peser un petit peu et c'était plus tout à fait supportable. Et donc il y a dans ses mémoires, je vais en profiter pour montrer ce très beau volume qu'on a trouvé à grand peine, mais on l'a trouvé.
Et à grand prix.
Voyage à travers la souffrance, page 77, il y a un passage d'une très très belle intensité, un moment où quelque chose en lui vacille. Et il à ce moment-là, il est face à l'icône et il écrit le Christ me regardait à nouveau de ses yeux lumineux qui apportent la grâce. Et il y a vraiment la description d'une très belle expérience en quelques mots. Oui, il n'est pas si bavard que ça finalement pour une vie aussi remplie. Pas bavard du tout. Et il a vraiment là, voilà, c'est pas le Christ le regarde. Et évidemment, dans la tradition iconographique orthodoxe, je parle sous le contrôle de Claire, c'est pas quelque chose de décoratif, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la grâce. L'icône nous regarde, et Luc, dans sa prison, reçoit ce regard. Alors, 1946, le même homme qui vient de passer 11 ans de sa vie en exil, effectivement, reçoit le prix Staline de première classe pour ses essais sur la chirurgie des infections purulentes. Donc c'est 200 000 roubles, mais finalement je crois qu'il en a donné la majeure partie aux orphelins de guerre.
Si vous voulez, je vais vous dire un mot de ces travaux, parce que c'est quand même frappant chez lui en tant que chirurgien. Il y a deux choses qui ont eu beaucoup d'importance effectivement dans ses travaux. C'est donc, comme je vous l'ai dit, l'anesthésie loco-régionale et l'anesthésie locale. C'est le premier point, donc, comment on fait pour que la chirurgie se passe le mieux possible. Et deuxièmement, effectivement, ils avaient, si vous voulez, on est dans l'époque où il n'y a pas le moins d'antibiotiques, et où on a quand même Pasteur. Pasteur a fait ses découvertes sur les microbes et tout ça. Alors, au moment de la naissance de Luc de Crimée, j'ai vu, c'est en 1877, Pasteur découvre tout ce qui est le monde micro, le micro, donc, bien, microbien, et donc, les chirurgiens ensuite, cette notion qu'effectivement, il faut une asepsie, il faut faire attention à tout, aux microbes, et ainsi de suite, c'est nouveau, parce que si vous voulez, regardez une image comme ça, c'est en 1840, c'est en 46, la première anesthésie avec les chirurgiens autour, ils sont tous en redingote. Il n'y a pas du tout la notion d'asepsie. Et donc, Luc de Crimée, il a très vite compris que, comme l'avait d'ailleurs compris le chirurgien de la garde Napoléon, Dominique Larrey, c'est que si on est dans une ambiance, disons, de guerre, ainsi de suite, ou autre, de mauvaise hygiène, ainsi de suite, très rapidement, les plaies s'infectent. Et moi, personnellement, j'ai vu ça à Mayotte avec un climat extrêmement humide. on avait tous les jours ce qu'on appelle la consultation des abcès, c'est-à-dire que les gens arrivaient avec des infections épouvantables au niveau à partir d'une petite plaie de rien du tout, avec des flegmons énormes, les enfants avec des énormes abcès ici parce qu'il y avait un moustique qu'ils avaient piqué et il n'y avait pas eu d'hygiène du tout. Et là, un chirurgien comme Luc de Crimée, il arrive à étudier de façon tout à fait remarquable en se penchant notamment sur tous les cadavres et ainsi de suite qu'il examinait entre 16 heures il disait qu'au-delà en fin de journée, il allait disséquer des cadavres pour essayer de comprendre pourquoi le malade était mort, pourquoi il était à quel niveau il fallait amputer et ainsi de suite. Et donc, il a fait d'énormes travaux sur la compréhension de comment traiter les infections des articulations et tout ça. Et il y a un chirurgien russe qui disait que il avait fait gagner 50 ans de d'expérience par ses travaux à la Russie à l'époque. Mais moi, je peux vous dire que même dans ma pratique, on a constaté à un moment donné qu'on comptait trop sur les antibiotiques et qu'on ne pouvait pas se passer des gestes chirurgicaux extrêmement éventuellement délabrants, mais qui étaient nécessaires parce que les antibiotiques ne suffisaient pas. Alors lui, à son époque, il n'y avait pas d'antibiotiques, donc si vous voulez, tout était basé sur la chirurgie. Et sur la chirurgie, donc, parfois extrêmement mutilante, mais nécessaire pour arrêter ces horribles infections et ces gangrènes qui étaient absolument mortelles, bien sûr, si on n'agissait pas rapidement. Donc il a fait des travaux énormes et c'est comme ça qu'il a eu le prix Staline reconnu, alors que lui, il était avec sa croix pectorale et tout ça, et on lui donnait le prix Staline.
Et un chirurgien de l'Académie militaire de Saint-Pétersbourg dira plus tard, sans l'archevêque Luc, parce qu'il est devenu archevêque, la chirurgie russe aurait pris un retard de 50 ans. Ça, ouais. Alors le régime, autrement dit le régime qu'il a déporté plusieurs fois, trois fois au total, récompense au final son génie scientifique. Alors l'histoire, on le sait, a parfois le sens du grotesque, mais Luc, lui, en fait, il trouve pas ça grotesque, il trouve ça normal. Il faisait de la chirurgie parce que c'était son devoir, il recevait le prix Staline parce qu'il pouvait en faire quelque chose d'utile, voilà, donc c'est assez simple. Il faudrait mentionner ici, alors, quelque chose qui s'est passé en 1953, c'est le procès des blouses blanches, parce que ça montre un peu dans quel système Luc travaillait. Staline lance une campagne d'accusation contre une dizaine de médecins juifs réputés qu'il accuse d'avoir empoisonné des dirigeants soviétiques. En fait, c'est un mensonge, tout est fabriqué. Ça aurait pu déboucher sur des pogroms de grande ampleur, sauf que Staline meurt en mars 1953 avant d'avoir pu l'orchestrer jusqu'au bout. Mais sans développer plus avant, c'est un contexte qui nous dit que la médecine soviétique, c'était aussi un terrain politique. Et la compétence ne vous mettait à l'abri de rien. Et Luc le savait mieux que quiconque. Ouais. Alors, on va peut-être venir sur à cet ouvrage. Il y en a essentiellement deux. Il y a celui-ci, donc les voyages à travers la souffrance, et puis cet autre qui est beaucoup plus facile à trouver. L'esprit, l'âme et le corps. Il y a eu des conférences. Jean Becquiot qui a préfacé l'ouvrage fait une conférence et une émission radio qui a été faite également là-dessus. Alors ça va peut-être être un peu plus là ici un peu plus philosophique, donc je vous en demande par avance pardon, parce que finalement en marge de ces travaux médicaux chirurgicaux, eh ben, Luc rédige ce qu'on pourrait appeler peut-être un traité de, alors je ne sais pas, philosophie ou théologie anthropologique, esprit, âme et corps, qui a été diffusé clandestinement dans les cercles croyants. C'est l'œuvre d'un homme qui a opéré des milliers de patients et qui pose une question que sa spécialité ne peut pas résoudre, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cet être humain que j'ouvre, que je dissèque exactement. Alors, le matérialisme répond, l'être humain, c'est un organisme. La pensée, c'est un produit du cerveau. Et puis c'est tout. Et Luc ne dit pas que cette affirmation est fausse, il dit mais c'est pas complet. On n'a pas tout dit. Et c'est sur cette incomplétude-là qu'il va. Un grand neurochirurgien soviétique de son temps, Thierry, tu sais peut-être qui c'est, avait cette formule qu'il répétait, il disait « j'ai pratiqué des milliers de trépanations, j'ai ouvert des crânes et je n'ai jamais vu la conscience. » Et Luc cite cette phrase, alors non, il s'agit pas de, encore une fois, il ne s'agit pas de ridiculiser la neurologie, mais de faire observer que l'instrument et son utilisateur, eh bien, sont deux choses distinctes. Il y a le piano produit de la musique, mais la musique n'est pas dans les cordes. Ici, on va dire, je veux dire un petit mot de trois penseurs avec lesquels il est en dialogue beaucoup, qui sont eux des philosophes, Bergson, William James et Merleau-Ponty. Bergson, prix Nobel de littérature, hein, que tout le monde a lu à cette époque-là, dans toute l'Europe cultivée, y compris en Russie, avant la Révolution. C'est quelqu'un qui pose une question qui retentit directement sur l'anthropologie de Luc, la question du temps vécu. Physiquement, un quart d'heure d'ennui et un quart d'heure de bonheur intense, c'est la même durée. La montre ne fait pas de différence, mais nous la faisons. Nous la faisons même énormément. La durée vécue ne se réduit pas à la durée mesurée, et c'est là précisément que le matérialisme vient buter. On peut mesurer des corrélats cérébraux de l'ennui ou du bonheur, mais on ne peut pas capturer la texture du vécu lui-même. Et pour Luc, en fait, ça c'est une observation clinique. Pour lui, la souffrance du patient ne se réduit pas à ce que l'imagerie médicale montre ou pourrait montrer. D'ailleurs, il est précurseur sur ce sujet. Il écrit, on va sans doute un jour avoir des images de ce qui se passe dans le cerveau. Et puis, ça devrait prendre la forme de taches de couleur, très probablement et tout. Et donc, à des dizaines d'années d'avance, n'est-ce pas,
il décrit de façon l'IRM. Étonnante ce qu'une IRM actuellement révèle. Voilà. Effectivement, d'ailleurs, le docteur Bichou, que tu as écouté peut-être dans sa conférence et qu'on n'est pas arrivé à récupérer, ce Bichou était un médecin actuel, hein, qui est un neurophysiologiste et puis qui s'occupe aussi de soins palliatifs. Et il s'est beaucoup intéressé effectivement aux écrits de Luc de Crimée. Ouais. Et donc, il dit, mais Luc de Crimée a décrit réellement ce que l'on décrit maintenant dans une IRM. Il a supposé à son époque ce qui se passait dans le cerveau et qu'effectivement on met en évidence maintenant à travers les travaux l'imagerie qu'on a à l'heure actuelle par l'IRM.
C'est ça. Et l'idée, c'est qu'il y a dans la douleur, il y a une dimension subjective, irréductible, et c'est cette dimension-là que le soignant doit prendre en compte aussi, et pas seulement les lésions, en quelque sorte. Alors ça, c'est pour Bergson, ou William James, qui est le frère de l'écrivain Henry James. William James, on le connaît, on dit que c'est le fondateur du pragmatisme en philosophie, c'est un Américain. Et lui, il pose la question un peu différemment. Est-ce qu'on peut localiser la conscience? Est-ce que c'est une chose localisable? Et sa réponse est non. C'est un flux continu. Ce qu'il appelle le stream of consciousness, c'est-à-dire le courant de la conscience, qui ne peut pas être interrompu, qui ne peut pas être fractionné, qui ne peut pas être tellement mesuré de l'extérieur. Et dans son enquête sur les expériences religieuses, William James, le philosophe, recueille des centaines de témoignages qui montrent que les états mystiques ont des caractères précis et reproductibles et que ce ne sont pas des pathologies, que ce sont des états de conscience à part entière avec leur propre logique. Alors Luc finalement, lui, il vit tout ça. Il n'a pas besoin de le décrire, il le vit. Sa prière avant chaque opération, sa certitude d'une présence dans la salle. On n'est pas là dans le registre de la conviction philosophique, mais véritablement la texture ordinaire de sa vie. Et pour William James, le cas de Luc aurait été un cas d'étude fascinant, mais pour Luc, c'est le matin, midi et soir. Merleau-Ponty, troisième philosophe que je pense intéressant de connecter aux écrits de Luc. Maurice Merleau-Ponty, qui lui aussi est tout à fait contemporain de Luc, c'est la même amplitude, formule une intuition que Luc aurait pu signer. Le corps n'est pas un objet que j'habite comme on habite une maison. Le corps, c'est moi. Et quand je touche quelque chose, c'est pas mon cerveau qui traite l'information, mais c'est moi, corps-sujet, qui rencontre le monde. Et pour un chirurgien, cette intuition-là, elle est pleine de sens. Lorsque Luc fait une incision, il entre en contact avec une personne. C'est pas un objet dont le corps serait à la fois
un amas de cellules.
Voilà, un amas de cellules. Là, ici, le corps, c'est le lieu de la souffrance et, en même temps, le lieu de la guérison. Et voilà pourquoi il prie. Voilà pourquoi il fait le signe de croix sur ses patients, quelle que soit leur religion. Ce corps devant lui, c'est quelqu'un. Alors voilà, trois arrestations, 11 ans d'exil au total, la Sibérie orientale, le froid, l'isolement, les interrogatoires du NKVD, bon, c'est d'autres noms.
Épouvantable, les interrogatoires.
Des jours.
Ceux qui étaient à la conférence sur Steinhardt, oui. Et vous avez remarqué ces interrogatoires dont parle Steinhardt, c'est épouvantable, et où il est en train de craquer, et c'est là qu'il fait sa prière incroyable à Jésus. Eh bien, là, il vous décrit des interrogatoires où c'était un système où on vous empêche de dormir, et ceux qui vous interrogent se relaient. Oui. Et il dit pendant 13 jours comme ça,
lumière,
il tenait plus debout, il était
lumière
il y avait
permanente,
des hallucinations,
et questions répétées,
il voyait des petits poussins, des serpents dans son dos et tout ça. Enfin, on vous fait perdre complètement la tête pour vous faire avouer quelque chose que vous pouvez pas avouer, puisqu'on vous fait avouer que vous êtes un espion. Et il dit, je n'étais pas un espion. Donc c'est d'une perversion, et il exprimait très bien Michel Simion ce côté complètement diabolique et pervers, qui fait que on est dans le monde du mal, et avec ces gens qui essaient de vous faire qui sont complètement paranoïaques à vous faire démontrer quelque chose que vous n'êtes absolument pas.
Finalement, ils sont nombreux à avoir craqué, et on le comprend. Et alors lui, il tient le coup. Ce qu'il vit dans ces années-là, je me dis que la théologie orthodoxe peut-être nommerait ça la kénose, c'est-à-dire le mot grec de Paul aux Philippiens. Le Christ s'est anéanti en prenant condition d'esclave, dans un amour qui n'exige rien, qui ne s'impose pas et qui se fait disponible jusqu'au bout. Et d'une certaine manière, Luc incarne cela. Je trouve, sans avoir besoin d'en faire tellement une doctrine, il opère dans les baraquements, il soigne ses gardiens, il célèbre la liturgie dans la clandestinité, avec les moyens du bord, et parfois il n'y a vraiment pas grand-chose, une nappe, un bout de nappe, du pain ordinaire, et puis c'est tout. Et puis alors, il y a un épisode que je voudrais vous partager, parce qu'il illustre cette posture de médecin et de saint, très bien. Pendant l'un de ses exils, ben on le sort d'urgence du camp pour aller soigner un haut dignitaire soviétique qui est atteint d'une péritonite appendiculaire, mais heureusement que Thierry m'a expliqué ce que c'était. Une péritonite appendiculaire. Et comme tu l'as rappelé, la pénicilline, c'est seulement 1928. On l'utilisera en clinique qu'à partir de 1940-41. Et donc, sans antibiotiques, c'est la condamnation à mort, la péritonite appendiculaire. Et donc, l'évêque déporté, il est extrait, il opère, il sauve la vie de l'apparatchik, et puis il repart en exil, en fait. Hein, et sa réaction, telle que les témoignages la restituent, c'est à peu près celle-là, et c'est une grande sobriété. Sortez-moi de là, je serai plus utile sur le terrain à soigner des blessés, et puis vous m'y remettrez après.
c'est de la logique. Hein. C'est ce qu'ils disent, notamment au moment où il y a l'invasion allemande en 41, il supplie, il est en relégation, il supplie qu'on le fasse, qu'il aille dans les hôpitaux de l'arrière du front pour se soigner les blessés. Et effectivement, les autorités répondent à sa demande parce que il y a une nécessité absolue effectivement de chirurgien dans ces circonstances-là. Et d'ailleurs, il note que ça a été une des périodes les plus de très heureuses où il a opéré tant et plus tous ces blessés qui arrivaient du front. Et il note qu'il était beaucoup mieux là qu'en relégation, bien entendu. Quoi.
Alors, cette vie de Luc, pourquoi ça nous regarde ? On vit dans un monde où la médecine peut guérir, peut en tout cas décrire à peu près tout ce qui se passe dans un corps humain. Elle guérit tant qu'elle peut. On décrit ce qui se passe et pourtant, on a des soignants qui s'épuisent, on a des cadences qui brisent, hein, le soin dans les lieux de soins, dans les établissements de santé, les hôpitaux. On vit dans un monde où la technique progresse à une vitesse qu'on a du mal à mesurer. On a l'impression qu'on ne maîtrise pas bien tout ça. Et le patient, très souvent, c'est un dossier, c'est un protocole, c'est une procédure. Luc de Simferopol, lui, je pense que protocole et procédure, c'était pas tellement son vocabulaire, mais il avait compris la différence entre traiter un organisme et soigner une personne. Donc il opérait avec une icône dans la salle d'opération, il priait avant d'inciser, et encore une fois, ces gestes-là dans la Russie soviétique des années 1940 sont une proclamation de celle qu'on fait avec sa vie. Et c'est peut-être ça, au fond, ce que sa sainteté, ce que la sainteté veut dire. Est-ce que c'est une collection de vertus impressionnantes ? Est-ce que c'est une liste de miracles homologués ? Peut-être que c'est plutôt une façon d'être là, dans le réel le plus concret. Donc le bistouri, le baraquement, le commissaire qui attend une réponse, en restant tourné vers quelque chose qui dépasse le réel, pour le transfigurer. Alors, ce qui lui est arrivé à Luc sur la fin de sa vie est encore difficile, puisque à partir de 1900, alors on est un petit peu avant, c'est en 1955 qu'il devient totalement aveugle. Alors, il continue de recevoir des malades. Ah ouais, non. Il continue de recevoir des malades. Alors, il pose des diagnostics à partir des symptômes qu'on lui décrit et du toucher. Et les témoignages sont nombreux et ils sont concordants. On a quelqu'un qui donne des diagnostics d'une précision extraordinaire, troublante, pour un homme qui ne voit plus rien. Et finalement, l'homme qui toute sa vie avait refusé de voir avec les yeux que le régime aurait voulu lui imposer, finit par ne plus voir avec les yeux du tout. Mais il continue de voir autrement. Et il y a là quelque chose que je ne sais pas nommer exactement, mais peut-être que vous avez un mot pour ça. Il meurt le 11 juin 1961, et c'est le jour de la fête de tous les saints de la terre de Russie. Coïncidence qui a été évidemment relevée. Il a été canonisé en 2000 par l'Église orthodoxe russe.
Et en 95, localement, il a été canonisé aussi par le... En Crimée,
tout à
par
fait.
L'église locale.
Tout à fait.
Et puis après, les Russes se l'ont récupéré aussi en 2000.
C'est ça. Et ces reliques ont été retrouvées incorrompues en 1996. Elles reposent à Simferopol dans l'église de la Sainte Trinité. Il y avait 40 000 personnes venues ce jour-là. Donc un chirurgien, un évêque, un homme qui a opéré à l'aube du XXe siècle dans des hôpitaux de campagne sans moyens et qui a tenu bon quand l'État le plus puissant du monde quand même essayait de le briser. Il n'a pas été brisé et il nous laisse quelque chose peut-être d'assez simple en réalité, la preuve que c'est possible, qu'on peut vivre sans compartimenter, que le scalpel et la prière peuvent habiter les mêmes mains, et que la souffrance, alors celle qu'on reçoit, celle que l'on soigne, peut être traversée sans qu'on s'y perde, sans être nié. Il écrit « L'Église a toujours souffert et toujours triomphé. Elle souffrira encore et encore elle triomphera. » C'est dans un de ses derniers sermons. Il en avait vu assez pour ne plus avoir besoin d'en rajouter. Voilà.
Bon, je vais juste vous dire un truc, c'est que c'est pour un médecin que c'est quand on lit ce qu'il raconte lui-même sur les interventions qu'il faisait, je peux vous dire que moi qui suis allé, qui ai eu la chance un petit peu d'aller me balader en Sibérie, une fois je suis allé dans un hôpital, donc un petit hôpital en hiver d'une ville de 8000 habitants, où l'hôpital était une isba, où il n'y avait même pas marqué hôpital. Et quand je suis entré dans cet hôpital avec ce blessé, c'était un blessé d'ailleurs, c'était un russe, deux russes qui s'étaient battus sous l'emprise de la Volka, et il y en a un qui lui avait donné un grand coup de poignard dans le dos, donc il n'était pas mort. Donc j'avais pu l'accompagner à l'hôpital. Et quand je suis entré dans cet hôpital, je me suis dit, si on tournait un film en voulant évoquer les années 30, on ne changerait rien au décor. Et malheureusement, l'anesthésiste qui m'a reçu ne parlait pas un mot d'anglais, moi je parlais pas un mot de russe, enfin bref, on n'a pas pu beaucoup communiquer, et il n'était pas très communicant. J'aurais aimé qu'on aille ensemble, notamment voir les radios du malade en question, et tout ça, ça ne s'est pas produit. Mais ça m'a donné une idée de ce que c'est qu'un hôpital en 2008, en Russie, au fin fond de la Russie, en Sibérie. Et là, quand je transpose sur ce que raconte Luc de Crimée, des opérations qui pratiquaient, mais dans des lieux, mais je ne sais pas comment ils faisaient, c'est pas possible. Vous avez, par exemple, il décrit une opération que je connais très bien, parce que il y a deux jours, mon ami Alain, celui avec qui j'avais fait toutes mes études de médecine et qui a fait toute sa carrière comme un généraliste dans le sud de la France, je lui téléphone, il me téléphonait pour avoir des nouvelles de Laurence, et je lui ai dit, tu sais pas ce que je suis en train de dire, c'est que Luc de Crimée, il a fait la même opération que toi tu as eue. Et c'est-à-dire, c'est une opération, mon ami en question, il y a quelques années, il a eu un abcès du foie qui était dû à un échinococcus, c'est-à-dire son chien avait bouffé du mouton pourri et puis lui avait transmis un parasite qui s'est mis dans le foie, qui s'est infecté, et ça fait un abcès du foie. Et donc, lui, il a été opéré dans un CHU à Bordeaux, dans des conditions extrêmement, disons, modernes et tout ce que vous pouvez imaginer. Et là, j'ai regardé ce que dit Luc de Crimée, dans quel bled il est. J'ai regardé sur Internet, mais même à l'heure actuelle, c'est un bled, mais un bled pire que celui auquel j'étais, moi, donc en Sibérie. Et là, il opère ce jeune type qui a ça, et une opération extrêmement dangereuse. Je ne sais pas comment il fait, mais toujours est-il qu'après, il repasse dans le village, puisque là, il était en cours de voyage de relégation, et qu'il voit ce type qui fait diagnostic d'abcès du foie. Il le sauve, et quand il revient, il repasse 2 mois plus tard, et le gars est parfaitement en parfaite santé. Donc ça, je veux dire, ça relève du tout. Vous voulez raconter ça à un médecin. Donc mon ami en question m'a dit, tu peux pas m'envoyer le bouquin. Donc voilà. Et sinon, je voulais noter quelque chose qui m'a amusé, c'est que dans une relégation, il a à peu près 45 ans, Il dit que c'est la première fois de sa vie qu'il a à faire la cuisine, il est tout seul, et qu'il sait absolument pas faire cuire quoi que ce soit. Il fait un truc absolument infâme, donc il y a une brave dame dans le coin qui a pitié de lui, et qui finalement prend le relais côté cuisine. Mais pour montrer qu'on peut être parfaitement doué dans des domaines extraordinaires et tout, et puis que sur des trucs complètement alimentaires, Dieu nous a pas pourvu de tous les moyens, et donc lui, il sait pas faire la cuisine. Voilà. Il y a trois trucs qui m'ont frappé aussi chez lui, c'est qu'il quand même, il a parfois fait des grèves de la faim quand il était en prison et au risque de mourir incontestablement. Mm-hmm. Une fois, il a voulu s'immoler par le feu. Alors ça, c'était pas qu'il. Vous savez ce qui lui était arrivé, c'est qu'il était, évêque, il était à Kachin. Il y avait la seule église qui restait, qui s'appelait l'église Saint-Serge, et on voulait la démolir. Et ça l'a démoli, et il a fermé la porte, il s'est dit, je vais fermer la porte, je vais rassembler toutes les icônes, je vais les mettre ensemble, je vais mettre le feu et je vais me mettre au milieu, je vais m'immoler avec ça. Comme ça, ils verront que de toute façon, c'est pour un ecclésiastique, c'est insupportable de continuer à démolir les églises. Et heureusement, il a été récupéré, mis en prison avant que l'église soit démolie, mais elle a été démolie, donc sinon il se serait immolé. Et après, il en fait amende honorable. Il dit, je vais vous lire ça beaucoup, page 87. Il dit, il s'en repent, parce que chaque fois, si vous voulez, il se repent de ses excès. Saint Jean Chrysostome, dans son fameux serment de Pâques, Saint Jean Chrysostome dit que Dieu non seulement reçoit l'œuvre, mais accueille l'intention. Et moi, pour mon intention donc de m'immoler, de mourir en martyr, que le Seigneur Dieu me pardonne la multitude de mes péchés. C'est-à-dire qu'il s'en repent parce qu'il dit que c'est pas une solution pour être martyr que de se s'immoler par le feu. Quoi. Voilà. D'autre part, une fois, il a essayé de se sectionner l'artère temporale ici. Il était en prison, il en pouvait plus et il s'est dit il faut absolument que je sorte de là et qu'il me au moins que j'aille à l'infirmerie parce que je deviens fou. Et il savait que s'il se sectionnait cette artère, c'est pas qu'il allait en mourir, mais que c'était tellement difficile d'arrêter, il faut faire un pansement compressif ou bien sûr faire une ligature. Il s'est dit qu'ils sont obligés de m'emmener à l'infirmerie. Et donc il a essayé de se sectionner cette artère, mais il y a le gardien qui lui a sauté dessus et il a vu qu'il avait le couteau et donc il n'a pas pu sectionner. Mais voilà, c'est les trois fois où je vois qu'il n'en pouvait plus, les grèves de la faim terribles, l'immolation par le feu et la section de l'artère temporale. Je pense que comme un chirurgien aussi, il pouvait avoir de temps en temps un caractère particulièrement trempé, voire un caractère pas facile pour ceux qui travaillaient avec lui, mais ça, c'est assez classique chez les chirurgiens. J'avoue que notre cher père, qui était chirurgien, je l'ai vu en salle d'opération se prendre des sacrées crises et en fin d'intervention de dire excusez-moi, j'ai un peu pété les plombs, mais il faut pas m'en vouloir. C'est la charge de responsabilité à ce moment-là qui vous fait un petit peu sortir de vos gants et qui vous fait un peu éclabousser l'entourage. Voilà. Mais donc je pense que Saint-Luc était un peu dans cette trempe-là et effectivement c'est des vies totalement hors du commun. Quoi. Voilà.
Voilà.